Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Bonjour Lisa, comment ça va ?
Ça va et toi Rémi ?
Ça va super. Aujourd'hui, une semaine un peu plus calme que d'habitude. On vous propose les rediffusions des interviews qui ont été réalisées dans le cadre d'Agora. On aura donc aujourd'hui la rediffusion de l'interview de la Boquinerie du Sar. On aura aussi la rediffusion de l'interview de l'association Kikurai Kendo. De quoi tu vas nous parler de ton côté cette semaine, Lisa ?
Alors moi, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir au Ciné Saint-Leu la semaine dernière.
Mais de quel film il s'agit ?
Les Feuilles Mortes de Aki Korismaki.
Et il me semble aussi qu'en fin d'émission, tu voulais nous chroniquer un artiste. Ce sera quoi ?
Ce sera les Stuff Foxes, donc qui ont fait un EP avec les White Fox.
Super, alors avant tout ça, on va s'écouter 7 Days de Bigaranx. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. Look up in the sky, I'm a paper plane. On the mountain top like Edal waves. All I'm looking for is better days. Life is a mountain of troubles, Mount Everest. Look up in the sky, I'm a paper plane. On the mountain top like Edal waves. All I'm looking for is better days. Life is a mountain of troubles, Mount Everest. God made the world in a 7 days. Human fuck it up. C'était 7 Days de Bigaranx. On enchaîne avec la rediffusion de l'interview que nous avons réalisée avec la Boquinerie du Sar.
Donc voilà, je crois qu'on a une autre invitée autour de la table. Si vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Moi, je suis Lisa et je suis la responsable de la Boquinerie du Sar. On est une librairie solidaire qui collecte et revend des livres, CD, DVD, vinyle et bientôt même friperie pour permettre la réinsertion par le travail. Vraiment, l'objectif de cette association, c'est d'aider les personnes qui sont logées dans les centres d'hébergement sur la métropole amiénoise à rebondir vers une vie plus autonome.
Moi, j'ai justement demandé de présenter l'association, mais je pense que c'est déjà fait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Moi, ma première question, ce serait pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette aventure ? Elle a ouvert en avril dernier.
Exactement.
Boutique. Donc, pourquoi est-ce que se lancer dans cette aventure
Oui. Alors, tout simplement parce que c'est un super projet, c'est une vraie mission concrète et directe, à la fois pour les personnes donateurs, donc qui souhaitent faire le tri chez eux, qui ont beaucoup trop de livres, trop de places, qui déménagent, enfin bref, tout le monde a des livres à donner. Donc ça répond à ce besoin-là, même si notre objectif, évidemment, c'est d'accompagner les personnes vers un nouvel élan. Et donc ça répond à ce besoin-là également des centres d'hébergement qui sont saturés trop souvent. Et nous, on souhaitait vraiment, plutôt que d'ouvrir un centre d'hébergement, puisqu'on n'a pas les compétences sociales non plus pour le faire, mais du coup de se dire, il y a des personnes qui sont à un moment donné pris en charge par des structures d'accueil et qui arrivent à un moment donné dans leur parcours à vouloir retrouver leur autonomie, à vouloir rebondir. Donc ça répond, je dirais, on peut allier et donateurs et insertion directement et concrètement. On n'est pas tous prêts à faire des maraudes ou voilà, à vraiment s'engager de manière... de consacrer énormément de temps à une association, mais simplement en donnant des livres. On estime à 15 livres donnés, c'est une heure de travail pour un bouquiniste en insertion. Donc ça permet vraiment de, voilà, à nos adhérents de contribuer directement et concrètement à la réinsertion par le travail.
Mais donc comment est-ce qu'on peut vous faire des dons, par exemple? On vient directement à la boutique, comment ça se passe?
Oui, alors il y a deux manières de nous donner les livres. On les collecte donc via des box. C'est un peu comme les box Le Relais, vous voyez, des box où on collecte les vêtements. Nous, on a des box comme ça où c'est marqué « Donnez vos livres » qui sont installés sur différents parkings, Otera, Boulanger, Laura Merlin, et bien d'autres à venir, je l'espère, sur Amiens et alentour. Et, ou alors directement dans notre bouquinerie au 7 rue Jean Froissart, dans le quartier Amiens plein sud.
Pardon, excusez-moi. Ces box, on peut les retrouver par exemple sur Internet, sur votre site Internet?
Tout à fait, oui. On a un site Internet, bouquineriedussart.com. Il y a un lien qui permet d'accéder à Google, où on a pointé tous les endroits des box, que ce soit à Amiens, alentour, mais également, je dirais, principalement sur la métropole lilloise. La bouquinerie du Sart a été inventée, fondée il y a 7 ans, à Villeneuve-d'Ascq, par Vianney Poissonnier. Et donc, du coup, c'est aussi ce projet-là, cette mission-là qu'on souhaite répliquer ici à Amiens. Donc c'est un vrai enjeu de savoir est-ce qu'on peut répliquer une association qui permet d'allier donateurs et insertion.
Vous parlez également de magasin école sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept de magasin école que vous développez?
Tout à fait. Alors, les personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur un contrat de 1 an environ. Parce que l'idée, c'est qu'on soit tremplin dans leur vie. Donc, c'est vraiment un CDD à durée limitée, avec une première phase de remise à niveau, où là, on les accompagne sur les fondamentaux qui nous semblent, en tout cas fondamentaux, pour réussir dans le monde du travail, c'est-à-dire être bon camarade, fiable, professionnel. Et tout ça, on le décline avec différentes activités, différentes missions qu'on effectue au niveau de la bouquinerie. Donc, avec le tri, l'encaissement, l'accueil des clients, explication de la mission. Voilà, il y a différentes... déclinaison, plein d'autres activités au niveau de la bouquinerie qu'on va décliner et qu'on va accompagner, on va dire, étape par étape. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a été déconnecté du monde du travail pendant très longtemps, l'idée, c'est aussi d'y aller étape par étape, de leur redonner confiance avant tout, évidemment, mais aussi d'avoir des vrais objectifs tous les mois. Donc, je vois chaque personne en rendez-vous formel, on va dire, aussi pour les préparer au monde du travail classique, avec des objectifs, etc. Donc, c'est en ça qu'on est un magasin école. Et puis, dans le reste du parcours, on les aide évidemment à retrouver leur propre logement et à définir un nouveau projet professionnel. Mais peut-être que je m'avance un peu trop.
Mais donc, si on souhaite rejoindre votre bouquinerie à titre bénévole, par exemple, pour vous aider dans ce projet, comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
Alors, j'inviterai toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles déjà à venir nous voir au 7 rue Jean Froissart. Ça leur donnera déjà une idée de l'environnement dans lequel on accompagne les personnes en insertion. Et puis aussi de voir leurs affinités. Est-ce qu'elles souhaitent nous aider avec le tri du livre, avec justement l'accompagnement des personnes en insertion? Ça peut être ça aussi. Les aider à faire un CV en fin de parcours, évidemment, ou à leur faire passer des petits entretiens individuels pour les préparer au mieux au monde du travail. Donc il y a vraiment différentes activités de bénévolat qui peuvent être pensées, aménagées en fonction des, je dirais, des expertises, des envies de nos bénévoles.
Et est-ce que vous avez un petit peu une idée de comment vous souhaitez développer davantage la bouquinerie à long terme?
Ah oui, alors on a ouvert donc il y a 4 mois. Et on est déjà très reconnaissant de l'élan positif qu'on a reçu, du support, de l'enthousiasme des personnes qui sont venues nous voir. Et donc déjà la semaine prochaine, j'ai demandé à un ami, à mon petit frère, de venir nous aider à installer davantage d'étagères, parce qu'on a besoin de créer davantage d'étagères pour recevoir tous les dons de livres et les mettre à disposition. Et puis comme je vous le disais au tout début, on va lancer une friperie puisqu'on a un super local de 500 m². Et donc l'idée, c'est effectivement de diversifier nos activités. Et la friperie, clairement, je ne sais pas encore exactement dans quoi je me lance, mais je sais que c'est beaucoup de travail, ce qui est évidemment tout l'essentiel de notre mission, parce que ça va nous permettre de recruter davantage de personnes. Et à l'heure actuelle, je suis en train de recruter 2 personnes en insertion supplémentaire.
Bien, merci beaucoup. Et donc, vous retrouver rue Jean-François du mardi au samedi de midi à 19h.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutiez l'interview de la bouquinerie du Sar enregistrée lors du salon Agora il y a 2 semaines à la Maison de la Culture. On enchaîne avec la chronique de Lisa. Lisa, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors du coup, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir mercredi dernier au Ciné Saint-Leu. Donc Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki, qui est passé cette année au 76e Festival du Film International de Cannes. Également élu meilleur film de l'année 2023, avec un humour acide et piquant, un sens du détail impressionnant. C'est un film plein de désillusions, avec des décors sobres et des plans fixes pour la plupart. Moi, j'ai trouvé ce film à la fois cruel et délicat, dans lequel Kaurismäki expose l'actualité de la vie en Finlande, comme la crise économique, l'inflation et la guerre en Ukraine. Mais aussi des sujets bien plus intimes comme l'addiction à l'alcool et son amour pour les gens de la classe populaire. Un amour qui naît dans une salle de cinéma entre 2 personnages qui ont une vie assez banale et qui ne croient pas en l'amour. J'ai trouvé que le réalisateur a su rendre très poétique l'univers du quotidien ouvrier et industriel. Et c'est tout à fait le genre de film que j'aime, à la fois fort et d'une simplicité incroyable. Je préfère pas vous en dire plus, allez le voir en salle, c'est vraiment un très beau film et il sera projeté au Ciné Saint-Leu pendant encore au moins un mois. Et n'oubliez pas que la plupart des films de Aki Kaurismäki sont également au Ciné Saint-Leu en ce moment jusqu'au 31 octobre.
Trop bien, merci beaucoup Lisa pour cette première chronique. On enchaîne avec l'interview de Kikurai Kendo, une association que Hugo a interviewé dans le cadre du salon Agora qui avait lieu il y a 2 semaines à la Maison de la Culture.
On est toujours au salon Agora organisé par la MAM à la Maison de la Culture. Donc voilà, on a de nouveaux invités, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, en effet, nous sommes avec Eleonore qui est la secrétaire, la chargée de communication de l'association Kigurai Kendo, et avec Jérémy qui en est un des professeurs. Alors l'association Kigurai Kendo, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une association à but non lucratif, donc de 1901. Aujourd'hui, on est à peu près une 20aine de licenciés. Alors le kendo, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'escrime japonaise. Donc c'est ce qui découle tout simplement de l'entraînement des samouraïs, le kenjutsu, qui a donné naissance en fait à 3 arts martiaux, l'iaido, le kendo et le batodo, qui est la coupe. Le kendo est la partie combat, en fait, de cet escrime. Donc on est équipé avec l'équipement traditionnel en fait, donc le gi, la veste, le hakama, le pantalon traditionnel avec les plis, et puis le bogu qui est l'armure, donc qui nous protège le haut des cuisses, le plastron qui nous protège le haut du corps, et puis les gants et le casque. Donc, aujourd'hui j'ai pas le casque, mais voilà. Et aujourd'hui donc le kendo nous permet en fait de reproduire des échanges d'escrime intenses en sécurité.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a une philosophie derrière ce sport ?
Alors c'est la même philosophie que tous les arts martiaux japonais au final. Hein. C'est-à-dire que l'idée c'est de... Normalement quand on dégaine le sabre on a déjà perdu. Et à partir du moment où on rentre dans le combat, c'est quelque chose qui devient de plus en plus contrôle de soi, maîtrise des émotions, maîtrise du geste en fait, parce que voilà, on a des zones de frappe pour qu'elles soient validées, donc il y a 3 arbitres. Pour qu'elles soient validées, il faut que la bonne partie du shinai, qui est le sabre en bambou qu'on utilise pour les combats, frappe la bonne partie de l'armure. Et donc ça veut dire en fait être capable d'être disponible, avoir le bon état d'esprit à n'importe quel moment. Donc, et puis que l'on on travaille aussi sur une unité, donc on appelle, pour que la frappe soit comptée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le ki ken tai. Le ki, c'est l'énergie, le ken, donc c'est la bonne frappe à valide, et le tai, c'est le corps. Et il faut que l'ensemble de ces trois éléments soient réunis. On peut avoir 50 frappes et pas avoir un seul point. Donc c'est un travail énormément personnel qui fait vraiment travaille à développer le corps et l'esprit et en fait son énergie personnelle à côté.
Alors ce sport se pratique dans un endroit particulier qu'on appelle un dojo. Alors nos auditrices et nos auditeurs ne savent peut-être pas ce qu'est un dojo et pourquoi on appelle ça un dojo.
Alors en fait, dojo, c'est un lieu de pratique, c'est le lieu de la voix. En fait, on retrouve le mot, ça se décompose en deux sons, hein. On retrouve do, qui est la voix, qu'on retrouve dans kendo, judo, aikido, c'est la voie en fait que l'on choisit, et donc le dojo, c'est l'endroit où on pratique sa voix. Donc le dojo où on pratique, en fait, bah, c'est que comme tout endroit, il y a des règles, il y a du respect, il y a le respect des partenaires. C'est pas parce que bah, voilà, on se tape dessus qu'on se respecte pas, au contraire. On est là pour apprendre, même les plus gradés apprennent des nouveaux et vice versa. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on est là pour pratiquer ensemble et traverser les difficultés de la progression, parce qu'il y en a, hein, c'est-à-dire que forcément, comme toute voie martiale, la progression est assez longue, on peut se retrouver sur des paliers, des choses comme ça. Et voilà, l'idée c'est de travailler ensemble, comme on dit, c'est les anciens tirent les nouveaux et les nouveaux poussent les anciens.
Ah, à qui s'adresse ce sport? Qui peut s'inscrire à Kigurai Kendo?
Alors aujourd'hui, on s'inscrit, c'est très large, hein, c'est-à-dire que bon, malheureusement, on n'est pas encore suffisamment gros pour avoir créé une section enfant, mais à partir de 14 ans. Et ensuite, il n'y a pas d'âge limite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique que l'on peut adapter, c'est pas un sport de percussion, on est protégé par une armure. Voilà, donc on est capable d'évoluer. Moi, j'ai pratiqué au Japon et je me suis pris des corrections par des gens qui avaient 70 ans, qui étaient 8e dan. Et voilà, donc on peut rester très efficace à un âge avancé. Voilà, donc c'est une pratique qui peut durer de toute une vie, quoi, finalement.
J'ai cru comprendre que le kendo a du mal à s'imposer en France, notamment en tant que sport. Alors, est-ce que c'est un art martial? Est-ce que c'est un sport?
Alors, ça reste un art martial. Alors, c'est aussi catégorisé comme un sport de combat parce que du fait que l'on ait des échanges qui soient réels, c'est-à-dire que c'est un art martial, mais c'est un art martial tourné vers le combat. Donc, comme le karaté, comme vous aurez des choses comme ça, vous reviendrez avec des bleus, forcément, même si on a l'armure. L'armure amortit les coups, mais il y a quand même des coups, quoi. C'est un peu le principe du gilet pare-balles. ça permet de ne pas être blessé de façon trop importante, mais on a quand même les impacts. Ensuite, la vraie difficulté du kendo, c'est la discipline que ça demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sport qui demande, ou un art martial, qui demande vraiment de s'investir. Et avec la précision que ça demande, c'est une progression de tous les jours. Et il y a toujours quelque chose à corriger. C'est-à-dire qu'on peut être à très haut niveau, on aura toujours des choses à améliorer, des choses à corriger. Et donc ça nous oblige en fait à une discipline et à une non-autosatisfaction de notre niveau qui est difficile en fait. C'est-à-dire que, et puis ça peut être très frustrant du coup de ce fait-là.
Donc c'est tout cela qui fait que le kendo a du mal à s'imposer en France?
Aujourd'hui oui, parce que voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent, qui essayent. Et beaucoup de gens imaginent qu'on va leur mettre une armure tout de suite et puis qu'ils vont commencer avec un shinai à combattre et autres. Aujourd'hui, non, ça ne va pas être ça. Dans les faits, ça va être d'abord, on va vous apprendre les bases, on va vous apprendre à vous déplacer, on va vous apprendre à frapper. D'un point de vue, ne serait-ce que pour vous et pour la sécurité de la personne qui va prendre les coups aussi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas cette première étape. C'est-à-dire que c'est répétitif, c'est long au début. Et donc du coup ça te décourage. On a vraiment trois étapes en fait en kendo où on voit les gens arrêter. Cette première étape c'est ça. La deuxième étape c'est souvent quand ils mettent l'armure, parce qu'ils s'aperçoivent ok on a l'armure mais on sent quand même les coups. Donc là, c'est la deuxième étape. Et souvent aussi, quand ils arrivent à la ceinture noire, c'est... ben voilà, j'ai ma ceinture noire, ça y est, j'ai atteint. Alors que la ceinture noire, ça veut dire, ben voilà, ça y est, vous savez marcher, vous savez vous tenir debout. Maintenant, vous allez apprendre à courir et vous allez apprendre à vous déplacer, quoi.
Alors justement, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est un investissement en ce qui concerne la tenue, l'armure, comment ça se passe ?
Alors, au début, non, nous, quand vous venez essayer, on fournit des chinas, il y a besoin juste d'un jogging ou de vêtements amples qui vous permettent de vous accroupir confortablement. On fournit donc le chinaï. Après, quand vous vous sentez à l'aise, on va vous demander d'investir alors, dans le pantalon et puis la veste. Ça coûte à peu près 70-80 euros, ça dépend pour les deux. Un chinaï, c'est une trentaine d'euros. Voilà. Après, donc, il n'y a pas besoin de ça pendant. Il n'y a besoin que de ça jusqu'à ce que bah, voilà, vous ayez acquis toutes les bases pour pouvoir commencer à mettre l'armure. Le temps pour mettre l'armure, c'est vachement variable, c'est-à-dire que ça va dépendre forcément de la personne, de son investissement, s'il vient à tous les cours ou autre, et tout ça. Une armure. Les premiers prix, en général, ce qu'on conseille, c'est vrai que bon, ça va coûter à peu près une 300-400 euros. Par contre, on ne la change pas tous les ans. C'est-à-dire qu'une armure, elle va durer 5-10 ans en fonction de si vous en preniez soin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un investissement à l'instant T, mais ce n'est pas un investissement qu'on refait de façon régulière, en fait. C'est-à-dire que moi, ça va faire près de 20 ans que je fais du kendo. J'ai dû acheter en 20 ans 3 armures. Et encore, c'est plus parce que Et j'utilise encore les 3, c'est plus parce que bah, voilà, quand j'ai des sessions d'entraînement avec des stages ou autres, bah, j'aime bien avoir une deuxième armure qui est sèche. Quand je me suis entraîné le jeudi soir et que le vendredi on part sur un stage, c'est plus agréable d'avoir une armure qui est sèche qu'un truc qui est encore en train de sécher, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui dure aussi.
Ah, bon, on connaît les vertus cathartiques du sport, hein, je suppose, en plus d'un sport de combat. Qu'est-ce que ça apporte au niveau, on va dire, individuel, spirituel, de pratiquer le kendo ?
Bah, c'est vraiment la maîtrise de soi. C'est-à-dire que le kendo a un aspect qui est très mental, dans la mesure, alors parce que voilà, ça reste un sport de combat. Moi, je suis arrivé au kendo du karaté. En venant du karaté, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé au kendo... donc il y avait cet aspect encore combat que je retrouvais du karaté, cet esprit de combatif que je pouvais garder. Mais par contre, ce que j'avais, bah, c'est que voilà, avec les shinai, on se retrouve, au lieu d'être au corps à corps, on se retrouve à une distance qui est à peu près de 2 mètres par rapport à l'autre. Et donc surprendre quelqu'un quand on est à 2 mètres comparé à surprendre quelqu'un quand on est au corps à corps, bah, ça demande un travail qui est beaucoup plus mental, une pression qui est beaucoup plus importante pour vraiment sentir le moment où il a un moment d'absence, en fait, pour pouvoir y aller. Parce que bah, au moment où il a ce moment d'absence, bah, il faut le saisir parce qu'on a ce. Il faut qu'on couvre 2 mètres avant de pouvoir l'atteindre, quoi. Donc c'est vraiment ce travail-là. Et c'est vraiment ce qui permet, quand on monte et quand on évolue, de maîtriser le combat. C'est vraiment une maîtrise du combat. Moi j'étais encore là il y a quelques mois au Japon où je me suis entraîné bah, avec un de mes profs que je suis là-bas. Et en fait, au moment où je partais pour mon attaque, ben, je m'apercevais que j'étais exactement, encore une fois, à l'endroit où il voulait, comme il voulait, et je lançais l'attaque que lui m'avait fait lancer, en fait, tout simplement. Il avait travaillé sur les déplacements, sur la façon, sur les pressions, pour me faire déclencher d'une certaine façon. Et donc, en fait, j'avais déjà perdu. J'avais déjà perdu. Au moment où je partais, j'étais battu. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, c'est que... on développe vraiment cet aspect de rester calme à tout moment, de maîtriser justement cet élément-là, malgré ce qui peut arriver, malgré les coups, malgré la pression de l'adversaire. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de maintenir, de garder sa posture, de garder sa maîtrise, quoi qu'il arrive, quoi que l'autre fasse. Et l'idée, c'est justement d'amener l'autre à faire ce que nous, on a envie de faire.
Alors, ultime question plutôt pratique, j'ai demandé à Eleonore, comment vous contacter ?
Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez aller directement sur notre page Facebook. Il y aura un lien pour nous envoyer un message via Messenger. On peut aussi nous contacter via mail ou par téléphone.
Et le mail, c'est ?
kigurai.kendo@gmail.com.
C'est ça.
kigurai.kendo@gmail.com.
Et donc la page Facebook, je suppose que c'est Kigurai Kendo.
Tout à fait.
Voilà. Kigurai Kendo Amiens. Et on a aussi une page Instagram.
C'est ça, qui a été nouvellement créée l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et on est assez actifs sur les réseaux sociaux de manière générale.
Eleonore et Jérémy, je vous remercie.
Merci à vous.
Et puis je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Vous écoutiez l'interview de l'association Kikurai Kendo enregistrée lors d'Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole. On enchaîne avec une chronique musicale. Lisa, de quoi tu voulais nous parler cette semaine? Il me semble que tu voulais nous chroniquer un petit peu de noise.
Oui, de la noise pour réveiller un petit peu le début de semaine. Disons que j'avais envie de partager avec vous du coup un des deux morceaux qui fait partie de l'EP des Stuff Foxes et de White Fox. Donc c'est deux groupes différents, un de Angers, un de Tours. Donc les Stuff Foxes que j'ai découvert au Celebration Days Festival, comme le groupe Brahma dont j'ai parlé dans une précédente émission. Et donc les morceaux que je vais vous passer, c'est vraiment une rafale de noise qu'on se prend en pleine face, hein, clairement. C'est deux morceaux qui décoiffent. C'est un EP qui est sorti en 2022. Donc Yves, le premier morceau que je vais vous passer, c'est vraiment plus de la noise et du post-punk. Tandis que l'autre morceau de l'EP, qui s'appelle du coup Remords, il est plus dans du rock psyché et shoegaze, mais ça décoiffe. Les deux, dans tous les cas, ça décoiffe. Ils sont souvent comparés aux Psychotic Monks, mais ils gardent quand même bien leurs pattes à eux. On ne peut pas trop les catégoriser. Et leur prochain concert, c'est à Nantes, le 20 octobre 2023. Donc je vous invite vraiment à aller les voir, parce qu'en concert, ils décoiffent.
Merci beaucoup Lisa pour cette nouvelle chronique. On écoute donc Yves de Stuffed Foxes, et c'est sur ces quelques notes musicales que nous nous quittons. C'est la fin d'Info Club Sandwich, à demain.
Yeah. of ye ever seen a battle rich toil boarding castles? Have ye ever win a battle rich?